Votre attention, s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Campus et vous faites bien puisque c'est l'heure d'Angle d'attaque, l'émission proposée par les trois attaques de la métropole lilloise, attaque A2TAC, association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Aujourd'hui nous accueillons un nouvel animateur, Quentin. Bonjour Quentin. Par contre Christian, donc notre fidèle acolyte, ne sera pas avec nous, on le salue. Mais vous retrouvez Florent, toujours à la technique, René et moi-même. De quoi parlons-nous aujourd'hui ? On va parler de guerre sociale en France, de néolibéralisme et d'autoritarisme. Dans un essai remarqué publié en 2018 qui s'appelle « La société ingouvernable » aux éditions La Fabrique, Grégoire Chamaillou fait une généalogie de ce qu'il appelle le libéralisme autoritaire, en montrant de façon intrinsèque que le néolibéralisme va de pair avec un autoritarisme étatique qui se dissimule plus ou moins. Car on se fait souvent une idée fausse du néolibéralisme, perçu comme communément une phobie d'État, un anti-étatisme unilatéral. L'actualité montre, si besoin était, à l'inverse, que le libéralisme économique et autoritarisme politique peuvent s'unir. En effet, le conseiller économique de Bolsonaro, Paulo Guedes, c'est un Chicago boy, un ultralibéral formé à l'école de Chicago et qui a enseigné au Chili sous Pinochet. Pinochet qui, lors de son coup d'État en 1973, a été défendu par un théoricien du néolibéralisme de renom qui s'appelle Friedrich Hayek, qui en soutien à ce même Augusto Pinochet, a déclaré publiquement, je cite, « Personnellement, je préfère un dictateur libéral à un gouvernement démocratique sans libéralisme, ou pour le dire autrement, en somme, un État fort pour une économie entre guillemets libre. » Cette réflexion sur l'articulation entre néolibéralisme et pouvoir autoritaire est justement l'objet d'un livre qui vient tout juste de paraître aux éditions La Découverte et dont le titre est « La guerre sociale en France », le sous-titre à son importance, aux sources économiques de la démocratie autoritaire. Son auteur s'appelle Romaric Godin. Bonjour Romaric Godin.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à Mediapart depuis 2017 et vous êtes sans doute peut-être un des meilleurs journalistes économiques. Je dis ça sans flatterie. Je suis un fidèle lecteur de Mediapart et j'apprécie beaucoup effectivement vos articles. Et vous venez de publier donc cet ouvrage que je trouve extrêmement intéressant, dans lequel vous pointez le fait que la tentation d'un pouvoir autoritaire dans la France de 2019 trouverait ses racines dans le projet économique du candidat Macron, projet que vous qualifiez d'un terme qui est maintenant quasiment un peu galvaudé, qui s'appelle le néolibéralisme. Est-ce que vous pourriez revenir peut-être sur ce que l'on appelle le néolibéralisme ?
Oui, ce qui m'avait semblé effectivement important dans un premier temps, c'est de définir effectivement le néolibéralisme, parce qu'on le confond souvent avec le libéralisme, l'ultralibéralisme, toutes ces notions qui sont en fait un peu vagues, qui sont utilisées un peu, je dirais, n'importe comment, et du coup qui perdent en fait de leur pertinence. Donc je suis revenu un petit peu dans une première partie sur cette question-là, puisque le cœur de la thèse que je défends dans ce livre, c'est qu'effectivement, le candidat Macron et Emmanuel Macron, devenu président de la République, est effectivement le représentant d'un néolibéralisme radical qui s'ancre dans l'histoire française. Donc je réponds, c'est juste en ouverture de la réponse à votre question, je réponds effectivement à votre question. Qu'est-ce que le néolibéralisme ? Eh bien, le néolibéralisme, c'est un libéralisme qui a besoin, précisément, et vous l'avez dit en introduction, d'un État fort. Ça consiste en réalité moins à détruire l'État qu'à utiliser l'État au service du capital et au service des marchés pour avancer dans la marchandisation de la société et pour pouvoir, en réalité, développer une société qui est entièrement guidée par la logique de marché, parce que effectivement derrière tout ça, il y a une théorie de la valeur, il y a des notions philosophiques, et effectivement, le néolibéralisme, lui, est le partisan d'une forme de démocratie encadrée, où précisément, d'une certaine façon, tout ce qui n'est pas, enfin, la démocratie aurait pour fonction de gérer tout ce qui ne serait pas géré par les marchés, et effectivement, dans un certain, arrivé à un certain stade, qui n'est pas géré par le marché est effectivement très, très réduit.
On peut le mettre en parallèle aussi avec la pratique de l'ordolibéralisme allemand. Mm-hmm. Ma question c'était, est-ce que c'est directement lié ou est-ce qu'on a une nuance un peu entre la façon dont donc le gouvernement actuel et Emmanuel Macron souhaitent le mettre en place, mettre en place le néolibéralisme dans l'encadrement, dans le laisser-faire, dans cette volonté de dire tout ce qui est géré par le marché est intrinsèquement meilleur.
L'ordolibéralisme allemand, c'est vraiment une branche du néolibéralisme. L'ordolibéralisme allemand s'est développé de façon autonome par rapport aux autres pensées néolibérales, mais elle s'inscrit complètement, et il y avait des représentants lors de la fameuse date qui est très connue de naissance du néolibéralisme, qui est le colloque Lippmann de 1938 qui a lieu à Paris. Il y avait des représentants de l'ordolibéralisme allemand qui s'étaient développés avec l'école de Fribourg un peu auparavant. Mais le point de départ est le même, c'est la crise de 1929 en fait. Hein, et la crise de 1929, c'est la crise du libéralisme classique, de la pensée économique néoclassique, où les marchés sont développés sans aucune contrainte, sans aucun encadrement, et sont censés en fait trouver l'équilibre de façon spontanée. Pour les néolibéraux, en fait, ça n'existe pas en fait. Et c'est le même point de départ finalement que Keynes ou Polanyi plus tard. Donc c'est assez intéressant de voir que ça a donné d'une certaine façon des pensées qui sont plutôt considérées comme des pensées où l'État doit intervenir directement dans l'économie. Et puis, le néolibéralisme et l'ordolibéralisme allemand, elles, considèrent que la crise de 1929 ne détruit pas l'idée que les marchés sont l'institution qui est la plus juste dans la société, mais en fait, le fait que les marchés peuvent trouver cette justice de façon spontanée, sans être encadré par l'État. Et l'ordolibéralisme, c'est ça, c'est-à-dire de pouvoir donner au pouvoir d'État la capacité, effectivement, de laisser les marchés bien fonctionner. Alors la différence avec l'autre néolibéralisme, celui de l'école autrichienne de Hayek et von Mises, c'est qu'effectivement, il y a une croyance dans un ordre spontané qui est beaucoup plus fort chez Hayek et Mises que chez les ordolibéraux allemands. Mais grosso modo, on est sur la même idée dominante d'un État qui doit encadrer des marchés qui, une fois qu'ils sont encadrés, en fait, vont aller vers la justice. Alors comment Emmanuel Macron se situe dans ce débat-là? Si vous voulez, en fait, ce que j'essaye de développer, c'est que le néolibéralisme, c'est pas l'application pure et simple de théorie économique. C'est-à-dire que ce soit d'ailleurs l'ordolibéralisme allemand en tant que tel, c'est-à-dire en tant que politique appliquée à l'Allemagne, c'est pas en fait la théorie ordolibérale de l'école de Fribourg. Ce sont des choses très différentes. Et l'idée que je défends, c'est que le néolibéralisme, c'est pas uniquement une théorie, c'est un paradigme, c'est-à-dire c'est un ensemble, c'est une façon de gérer le capitalisme qui prend des éléments effectivement de la pensée de Hayek et de la pensée de Mises, qui prend des éléments ordolibéraux, mais qui va aussi s'inscrire dans des réalités économiques locales et notamment dans la réalité économique française. Et dans ce cadre-là, la pensée de Macron est moins une pensée théorique qu'une pensée où on essaye de forcer une société, la société française, qui était plutôt réticente à l'application de réformes néolibérales, eh bien, comment on la force justement à accepter un certain nombre de réformes très dures qui modifient complètement l'équilibre social.
René,
oui, justement, pourriez-vous nous parler justement des raisons de cette résistance de la société française par rapport à d'autres pays et des spécificités du capitalisme français, justement à l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir?
Alors, on a sur ces spécificités, on a effectivement, moi, j'établis des hypothèses. Ensuite, effectivement, tout ça peut être largement discuté. Ce qui est certain, c'est que ce qu'on voit, c'est qu'on a en France des élites qui sont des élites d'abord de droite puis de gauche, qui sont très fortement néolibérales. C'est-à-dire que, comme je l'explique, et je m'inspire là d'un livre de François Denor qui l'avait très bien montré, le néolibéralisme, il a une source française. Et les élites néolibérales françaises, elles n'ont pas besoin d'aller chercher Hayek, Friedman ou l'ordolibéralisme allemand. Il y a une tradition en France néolibérale qui s'inscrit d'ailleurs dans une pratique très forte des élites. Et ça, ça se retrouve dès le début, en fait, de la création de l'État-providence français à la fin des années 40. Dès les années 50, il y a une contre-offensive des élites vis-à-vis de ce système social français.
Donc, par exemple, Rueff, peut-être, non ?
Voilà, par exemple, Jacques Rueff, qui est plutôt connu, qui est un conseiller de Charles de Gaulle, qui a écrit un rapport avec Louis Armand en 1959, qui va rester, qui est un rapport qui, en fait, dit la même chose que tous les rapports, le rapport Minc, le rapport Attali, etc., c'est-à-dire que le système français nuit à la compétitivité française et donc doit être démantelé. Ce qui est spécifique, c'est que donc on a cette élite qui est très néolibérale, qui à partir de 1983 et du tournant de la rigueur va être rejoint par les élites dites modernisatrices de gauche, toutes celles qui, dans les années 70, défendaient plutôt effectivement les nationalisations et une modernisation menée par l'État, et qui, à partir de 1983, vont basculer en fait dans le néolibéralisme. Donc on a une certaine unité des élites françaises sur cette question-là. Mais en revanche, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, la France ne parvient pas à réaliser, et je ne le dis pas dans un sens positif, mais à réaliser une conversion complète au néolibéralisme, comme ça a pu être le cas aux États-Unis, au Royaume-Uni, ou dans les années 2000, une conversion très avancée en Allemagne, dans les années 90, dans les pays nordiques. La France résiste en défendant, en fait, à côté de réformes néolibérales, en développant, pardon, à côté de réformes néolibérales, des réformes qui vont dans le sens de la redistribution et du matelas de sécurité sociale. Donc, typiquement, ça va être les 35 heures, le RMI devenu le RSA, des choses comme ça qui vont se développer, en fait, en parallèle de réformes néolibérales qui vont effectivement être prises, les réformes des retraites, réformes du marché du travail de 2003, etc., etc. Donc on a un modèle français qui est un modèle que moi j'appelle hybride, qu'on pourrait appeler mixte, qu'on pourrait aussi appeler équilibré, entre une économie française qui est contrainte d'aller dans le néolibéralisme, qui est en fait le paradigme dominant du capitalisme à partir des années 70, et puis effectivement des choix d'équilibre sociaux qui sont mis en place. Alors pourquoi on arrive à ça ? La première des raisons, c'est qu'en fait, il y a une résistance de la société française à cette avancée du néolibéralisme. La première résistance, elle est tout bêtement électorale. C'est un peu idiot de le dire, mais c'est vrai. C'est-à-dire, très typiquement, on a le tournant de la rigueur, donc le choix du néolibéralisme par le gouvernement Mauroy, puis par le gouvernement j'ai oublié son nom, excusez-moi, de Laurent Fabius, pardon, Fabius, à partir de 1983. Et donc on a en 86 une lourde défaite de la gauche qui amène une droite très néolibérale au pouvoir. Le gouvernement de Jacques Chirac à l'époque est un gouvernement qui se revendique très clairement des exemples réganiens et thatchériens. Et effectivement, c'est un gouvernement qui va aller très loin dans certaines réformes mais qui va être bloqué en fait par la résistance de la société. Une grève des trains de la SNCF qui va être la plus longue de l'histoire. On l'a oublié aujourd'hui, mais c'est une grève qui va quand même être très forte. Évidemment, le mouvement étudiant, la mort de Malik Houssekine, etc. Et tout ça, effectivement, va amener le gouvernement à la fois à ralentir son rythme de réforme et puis surtout à être battu en 88 par une gauche qui va se présenter comme une résistance au néolibéralisme. Et puis en 93, quand la droite revient, 93-95, eh bien, on voit exactement le même phénomène. Édouard Balladur qui tente des réformes néolibérales, qui est battu en 95 par un Jacques Chirac qui retente des nouvelles réformes néolibérales, notamment la réforme des retraites, et qui échoue sur le mouvement social à la fin de 1995. Et donc, c'est en fait la pratique d'abord de la lutte en France qui va, en quelque sorte, obliger les gouvernements à prendre en compte cette résistance. Alors, quand on a dit ça, on n'a pas expliqué pourquoi il y a cette résistance. Et moi, une des thèses que je défends, c'est que d'abord, il y a dans l'histoire de France, dans l'histoire contemporaine de la France, il y a une lutte de classe qui est extrêmement violente au XIXe siècle et qui s'explique notamment par le fait que le capital, le camp du capital en France au XIXe siècle a été un des plus violents et un des plus opposés à toute forme de concession faite au travail jusque dans les années, au début des années 1900, et que ça s'est traduit effectivement par une vision du conflit entre le capital et le travail qui est une vision très violente. Et l'après-guerre, les choix qui ont été faits à partir du Conseil national de la Résistance, puis ensuite dans l'établissement de la sécurité sociale, tendent en quelque sorte à civiliser ce conflit entre le capital et le travail et à trouver un certain équilibre où l'État a une neutralité. Alors c'est une neutralité qui est parfois contestée, qui peut être d'ailleurs contestée, mais qui en tout cas oblige à la fois le camp du travail et le camp du capital à trouver des compromis. Et effectivement, lorsque arrive le néolibéralisme propose que l'État soit du côté du capital. Et ça va donc briser cet équilibre et ramener en quelque sorte la France là où elle était une centaine d'années en arrière, c'est-à-dire au lendemain de la Commune. Et effectivement, je pense que dans la société française, il y a un refus, conscient ou inconscient, largement inconscient je pense, mais il y a quand même un refus de cette situation. Et puis la deuxième chose, c'est qu'effectivement, le capitalisme français a fonctionné d'une certaine façon dans la mondialisation, et notamment le choix du capitalisme français a été le choix des délocalisations massives. Et à partir de ce moment-là, lorsque vous faites sur ces délocalisations massives une politique néolibérale qui vise à améliorer la compétitivité externe, eh bien effectivement, vous risquez de vous retrouver avec une société qui est profondément appauvrie, et qui en fait est déclassée d'une certaine façon. Et donc les gouvernements ont été obligés de maintenir des transferts sociaux importants pour pouvoir compenser le fait qu'on était dans cette vague de désindustrialisation extrêmement agressive.
Et en même temps, les réformes macroniennes sont... Pour l'instant, en tout cas, le Macron déroule quand même le tapis, même si effectivement il y a eu une fronde qui a été amorcée avec les Gilets jaunes, et pas n'importe quelle fronde. Donc il y a effectivement une résistance en France, mais en même temps, on a face à cette résistance un pouvoir qui manifestement ne veut pas lâcher. Et comment vous voyez un peu les perspectives par rapport à cette dialectique entre d'un côté effectivement une société qui tend de plus en plus à résister, on le voit dans l'hôpital, on le voit dans les pompiers, on le voit dans différents secteurs de la société, et un pouvoir qui tend à manifestement à faire la sourde oreille. Comment vous... Quels seraient un peu pour vous les scénarios si...
Alors avant juste de venir au scénario, je voudrais juste préciser ce qui est un peu au cœur de l'ouvrage, c'est de dire que précisément cet équilibre qui a été construit dans les années 80-90 par l'interaction entre des élites très néolibérales et une société qui, elle, résiste à cette tentative néolibérale, cet équilibre-là, il commence en fait à se fracturer à partir de 2010. avec la commission Attali, la réforme des retraites du gouvernement Fillon et la politique d'austérité décidée par Nicolas Sarkozy à partir de 2010. Ça va se poursuivre évidemment sous François Hollande, mais on n'était jamais arrivé en fait à un niveau de radicalisation du néolibéralisme qui est celui du gouvernement actuel, tout simplement parce que en fait les partis politiques, que ce soit de droite ou de gauche, avaient dans leur électorat des composantes qui étaient des composantes plutôt opposées à ce néolibéralisme radical. C'est pas le cas d'Emmanuel Macron qui lui a fondé en fait son succès électoral sur un bloc social qui est compact et cohérent, je dirais, dans la défense de réformes néolibérales de grande ampleur. Donc voilà, c'est pour ça en fait que ce gouvernement, lui, il peut reculer sur des points très précis, notamment donner du pouvoir d'achat via des baisses d'impôts, ce qui, en passant, conduit en fait à un affaiblissement de l'État et donc à un besoin futur de réforme, mais il ne cède jamais, en tout cas sur les réformes. On le voit très bien. Malgré les gilets jaunes, malgré les différentes colères dans les hôpitaux, les pompiers, etc., la réforme des retraites a été lancée. La réforme de l'assurance chômage, qui sera extrêmement violente, j'insiste beaucoup là-dessus, a été lancée au lendemain des gilets jaunes. Donc on a exactement, même si les gilets jaunes continuent évidemment, mais on va dire au lendemain du grand débat qui était censé répondre aux gilets jaunes. Et donc on a effectivement un gouvernement qui continue à dérouler ça parce qu'en réalité c'est son idéologie, voilà, et qu'il est là pour ça. S'il commençait à faire du Chirac, à ce moment-là, il perdrait en fait cette base sociale et il serait obligé en fait de se reconstituer. Et comme c'est un mouvement qui n'a pas d'histoire, effectivement ça poserait un problème politique majeur. Donc on a effectivement une situation politique, où on a la société qui s'oppose au gouvernement. Le gouvernement a une légitimité institutionnelle, il est le fruit d'élections, et donc il ne peut pas être renversé par une insurrection. C'est pas voilà, on a une légitimité d'un côté, qui est une légitimité sociale, de l'autre côté on a une légitimité économique, démocratique, pardon, et en fait c'est comme si on avait, en fait, le système démocratique français était incapable d'une certaine façon de régler ce conflit au sein de la société entre son gouvernement et la majorité des Français. Et donc effectivement, c'est pour ça qu'on a cette multiplication des tensions, et les Gilets jaunes et la violence du mouvement des Gilets jaunes et de la réaction du gouvernement à ce mouvement, c'est-à-dire cette spirale de la violence dans laquelle on s'est enfermé et qui maintenant déborde, et on l'a vu avec la manifestation des pompiers cette semaine, qui déborde en fait sur toutes les oppositions qui peuvent se présenter, ça c'est le reflet de cette tension entre la société et son gouvernement et le fait qu'il n'y a pas d'institution démocratique capable de régler cette tension. Donc à partir de ce moment-là, effectivement, qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. Le système démocratique et institutionnel français est en réalité incapable de régler ce problème. L'opposition qui maintenant domine entre les néolibéraux radicaux, ce qu'on peut appeler l'extrême-centre, et puis de l'autre côté l'extrême-droite, fait que effectivement, la gauche étant complètement divisé et incapable en fait de s'inviter dans ce duel entre l'extrême droite et l'extrême centre, eh bien on a en permanence effectivement un extrême centre qui peut rester au pouvoir par rejet de l'extrême droite, mais certainement pas par adhésion à sa politique. Et donc on est sur ce malentendu permanent dans lequel en fait on n'arrive pas à sortir et qui provoque en fait ces tensions dans la société. Et parfois cette violence très forte. Et donc on est en permanence dans cette opposition. Alors le grand problème, c'est que à la différence de ce qu'on a vécu dans les années 80 ou même 90, les mobilisations se font par catégorie sectorielle. Et là, on voit très bien l'influence de la culture néolibérale qui a atteint la France, évidemment, malgré cette résistance sociale au fait que l'État soit du côté du capital, la culture néolibérale, via la culture des États-Unis, mais via aussi l'évolution culturelle normale, a conduit effectivement à des réflexions qui sont des réflexions catégorielles ou individuelles, qui fait que une coalition des luttes est aujourd'hui quelque chose d'extrêmement difficile. Et pour répondre en fait au rejet du néolibéralisme par l'ensemble de la société, il faut que chaque partie de cette société qui rejette, pour ce qui la concerne, le néolibéralisme, soit capable à un moment de former des alliances pour comprendre que ce qu'elle rejette n'est pas uniquement quelque chose qui la concerne elle, mais en fait un projet de société qui est porté par le gouvernement. Et ça, pour le moment, on ne le voit pas. Et c'est certain que c'est ce qui rend effectivement cette lutte à la fois violente et, je dirais, sans issue pour le moment, en tout cas.
Quentin ?
Du coup, si je reviens sur le fonctionnement des institutions de la Ve République, il y aurait une nécessité de changer la présence de l'opposition et la capacité de l'opposition à faire des nouvelles propositions qui permettraient de sortir un peu de ce blocage. En fait, c'est circonstanciel le fait que jusqu'ici, on n'ait pas eu de gouvernement qui a un projet arrêté et qui souhaite passer en force coûte que coûte et qui a eu une recherche plus ou moins de consensus, on va dire, ces 30 dernières années. Et par exemple, là, il y a une réforme constitutionnelle qui est en cours de débat, même si ça avance très doucement. Est-ce que des mesures comme le retour de la proportionnelle ou ces choses comme ça pourraient régler le blocage dans lequel on est aujourd'hui, ou enfin, du coup, au long terme, non pas dans la situation présente, mais pour plus tard?
Ouais, le problème de ce système. Institutionnel, c'est qu'il donne des pouvoirs démesurés à quelqu'un qui a remporté au deuxième tour une élection, mais qui en réalité, sur ce deuxième tour, ne l'a pas forcément remporté pour son propre programme. Et c'est le cas à chaque élection d'une certaine façon. Enfin, peut-être pas dans les années 60, mais ou même 70. Mais on voit très bien que en fait, ce problème de majoritaire à deux tours, c'est que au deuxième tour, on a un président qui est élu souvent sur un malentendu. Ce qui fait qu'il devient, en fait, et on le voit depuis 1995, en fait, on le voit très rapidement, mais même depuis 88, c'est le cas aussi avec le deuxième septennat de François Mitterrand. En fait, on a quelqu'un qui est élu et qui tout de suite devient très impopulaire, tout simplement parce qu'il est élu sur un malentendu, sur une coalition. Dans la logique institutionnelle, c'est celui qui arrive à faire l'unité nationale, celui qui arrive à réunir le plus d'électeurs. Mais dans la réalité, en fait, et compte tenu de ce paradigme néolibéral qui impose, en fait, au gouvernement un certain nombre de réformes, eh bien, en fait, on se rend compte que ce n'est pas quelqu'un qui arrive à faire l'unité, c'est quelqu'un qui arrive à faire l'unité sur un malentendu. Et typiquement, si vous regardez François Hollande en 2012, il a fait l'unité des oppositions à Nicolas Sarkozy sur un malentendu. Ça va être le discours du Bourget, par exemple. Ça va être aussi tous les gens qui, effectivement, voulaient le rejet d'un Nicolas Sarkozy qui, en fait, allait chercher des idées dans le giron de l'extrême droite. Donc, évidemment, pour ce qui est d'Emmanuel Macron, comme pour d'ailleurs Jacques Chirac en 2002, c'est effectivement beaucoup plus le rejet de l'opposition du Front National et de Marine Le Pen qui a contribué à l'élection d'Emmanuel Macron que le programme d'Emmanuel Macron lui-même. Donc, si vous voulez, tout ce détour pour vous dire que le problème de la Ve République, c'est ce présidentialisme qui fonctionne, je dirais, sur un certain nombre de malentendus. Et donc ce qu'il faut, peut-être pas remettre en cause l'élection du président au suffrage universel, puisque les Français y sont sans doute attachés, mais c'est en tout cas mettre en place des contre-pouvoirs pour que simplement ce malentendu sur lequel le président est élu lui soit rappelé en permanence. Et que donc il ne puisse pas faire comme si, en fait, il avait été élu sur son programme de premier tour. Et donc, effectivement, la proportionnelle, mais la proportionnelle qui induirait une nécessité de construire des coalitions. Ça peut être, par exemple, une réponse. Ça ne peut pas être la seule, mais ça peut être une réponse. L'existence d'un conseil constitutionnel qui n'est pas, en fait, une sorte de caisse de retraite pour les vieux politiciens, mais qui serait effectivement une instance juridique suprême avec des juges et qui donc serait indépendant du pouvoir politique, peut être aussi une autre réponse. Encore faut-il effectivement ensuite se poser la question de savoir comment ces juges sont recrutés. Bon, voilà, tout ça pose un certain nombre de questions. Moi, pour moi, je pense qu'il n'y a pas de réponse, je dirais, évidente ou simple. Il faut aussi pouvoir prendre en compte le mouvement social, il faut aussi pouvoir prendre en compte l'opposition qui peut exister aux réformes et au pouvoir des chefs d'entreprise dans l'entreprise. Et tout ça doit effectivement avoir son mot à dire dans la construction des politiques économiques françaises. Donc, si vous voulez, je pense que ce dont on a besoin aujourd'hui, ce sont des contre-pouvoirs institués, construits, auxquels les gens peuvent participer pour pouvoir véritablement apporter une politique qui soit une politique consciente et équilibrée, et pas seulement celle des programmes de premier tour qui, en réalité, ne réalisent qu'au mieux 25% des inscrits et 10% des... 25% pardon, des exprimés et 10% des inscrits. Donc, il faut à un moment pouvoir effectivement réfléchir à plus de démocratie dans ce système, parce que sinon, effectivement, on ne sortira pas de ce face-à-face entre les mouvements sociaux et un gouvernement néolibéral radicalisé.
René ?
Oui, justement, là, actuellement, on est plutôt dans. On a plutôt l'impression que Macron et les macronistes sont sûrs d'avoir raison, que les opposants sont forcément des ennemis, et que ce pouvoir est tenté par l'autoritarisme.
Oui, je pense que c'est vraiment l'élément qui, moi, m'a amené en tout cas à écrire ce livre, mais je me rends compte que dans cette rentrée de 2019, je ne suis pas le seul à faire ce constat, y compris d'ailleurs à droite, et le pamphlet de François Sureau pour la liberté en fait arrive à partir de points de vue totalement opposés au mien, arrive à la même conclusion que moi. Et donc moi je m'en réjouis, parce que ça veut dire qu'effectivement on est dans une position d'extrême centre du côté de Macron, c'est-à-dire d'un pouvoir qui est radicalisé, qui est coupé des réalités à la fois d'une partie des élites libérales et d'une grande partie de la société. Et effectivement, il y a un enfermement dans une certitude d'avoir raison, de savoir, qui est assez typique d'ailleurs de la construction du paradigme néolibéral, puisque le paradigme néolibéral, il s'est construit autour d'un consensus de la science économique qui devait effectivement valider toutes les réformes structurelles. Et donc, les réformes structurelles étaient en réalité le produit de la science. Et cela faisait en sorte que, effectivement, ceux qui menaient ces réformes structurelles étaient du côté de la vérité, et ceux qui n'y étaient pas étaient du côté de l'erreur, et donc se trompaient soit sciemment, donc c'était des menteurs, si vous voulez, ou des imbéciles, soit parce qu'ils ne le savaient pas, et à ce moment-là, il fallait faire preuve de pédagogie. Et vous avez remarqué que pendant tous les deux premières années du quinquennat d'Emmanuel Macron, on a beaucoup parlé du côté du gouvernement de pédagogie. Il fallait simplement faire comprendre aux gens qu'on faisait leur bien malgré eux, d'une certaine façon. Et donc on est complètement dans cette... On est complètement aujourd'hui dans cette logique-là, et c'est pour ça que, en fait, le gouvernement aujourd'hui s'enferme dans cette logique autoritaire, en ne voulant écouter aucune opposition venant de la rue, parce que pour eux, effectivement, ce sont des oppositions qui sont complètement invalidées. Et je voudrais juste finir là-dessus, parce que je trouve que c'est intéressant. Aujourd'hui, en réalité, ce que nous dit la science économique et ce que nous dit aujourd'hui les faits, c'est que cette vérité que ces gens croient porter se révèle extrêmement fragile dans les faits. C'est-à-dire qu'en réalité, Par exemple, typiquement, le ruissellement entendu au sens large, c'est-à-dire le trop d'impôts tue l'impôt, il n'est pas du tout prouvé, il n'a jamais été prouvé. Et pourtant, toute la politique économique du gouvernement aujourd'hui est fondée là-dessus.
Mais alors, comment vous expliquez ce paradoxe ? Est-ce que Macron ne lit pas les économistes ou ne lit pas les économistes keynésiens, encore que, il n'y a pas que les économistes keynésiens qui maintenant remettent en cause cette théorie du ruissellement, qui du reste d'ailleurs n'est pas une expression qui est utilisée dans la science économique. Mais c'est ça qui paraît assez étrange, c'est que toute cette théorie ou cette pseudo-théorie n'est absolument pas validée, et malgré tout on a un homme à la tête de l'État qui effectivement ne veut pas, absolument pas se remettre en cause, et qui, mordicus, défend finalement cette conception, qui est en fait la conception le cardinal qui finalement préside à sa politique. L'idée, c'est de dire que le salut viendra par les élites, et que donc il faut donner des conditions favorables à ce que les élites économiques investissent en France, et la richesse produite va ruisseler et ainsi les profiter à toute la société. Effectivement, comme vous le dites, ça ne marche pas. Donc comment vous pouvez expliquer effectivement comment le Macron soit aussi peu autiste, d'autant plus que d'autres gouvernements dans le monde, manifestement, tentent à critiquer. Par exemple, je pense que Trump, par exemple, par certains aspects, a une politique effectivement de remise en cause du libre-échange. Bon, qui là aussi, alors je ne défends pas Trump, mais effectivement, son tend à montrer que ce logiciel néolibéral finalement n'est pas si, enfin, tend à perdre de son hégémonie. Est-ce que finalement Macron n'apparaît pas à contre-temps par rapport à une tendance qu'on voit un peu se dessiner un peu partout dans le monde ?
Alors, avant de répondre à votre question, je pense que l'exemple de Trump, pour moi en tout cas, n'est pas un bon exemple, parce que en réalité, le néolibéralisme est la liberté de circulation des biens et des services n'est pas, le lien entre les deux n'est pas absolument nécessaire. C'est une tendance du néolibéralisme qui va vers effectivement une mondialisation, parce que effectivement ça favorise ça favorise d'abord l'allocation des capitaux, et d'autre part ça va favoriser les pressions externes sur les gouvernements nationaux. Mais le néolibéralisme, il réfléchit beaucoup en termes nationaux ou en termes de blocs. Pour nous, ce sera plutôt en termes européens. Et de ce point de vue-là, Emmanuel Macron, il est aussi, pas protectionniste, mais d'une certaine façon, il va aussi défendre des lois qui vont empêcher des OPA agressives venant des étrangers, etc. Donc les choses ne sont pas aussi simples. À partir du moment où le néolibéralisme s'appuie sur un État ou sur on va dire des institutions publiques élargies, il peut, à un moment, pour survivre, utiliser le protectionnisme. Donc il faut toujours se méfier de ça, parce que la politique de Trump, à côté de ça, c'est une politique qui est très ouverte sur la liberté des capitaux. C'est quelqu'un qui fait une politique pour attirer les capitaux aux États-Unis et qui, par ailleurs, a fait une politique de baisse d'impôts massive, qui sont presque au niveau de ceux de Reagan dans les années 80. Donc ça, c'était juste une parenthèse, mais je trouve que c'est important de voir que en fait Trump n'est pas forcément dans cette logique de remise en cause du néolibéralisme. Il est plutôt dans une logique d'adaptation, et peut-être qu'on en parlera à la fin, mais c'est aussi là qu'est le danger. C'est-à-dire que du coup, le néolibéralisme peut être aussi investi par des mouvements d'extrême droite qui le présente comme une forme de, qui se présente comme une forme de renouvellement du paradigme, alors qu'en fait c'est la poursuite de l'ancien paradigme. Et vous avez cité Pinochet, Pinochet, il a fait en fait des réformes d'extrême droite et des réformes néolibérales en même temps. Juste pour terminer là-dessus, votre question, elle portait effectivement sur cette vision de Macron qui, effectivement, ne prend pas en compte l'évolution de la science. Mais c'est simplement parce qu'en fait, il y croit. Enfin, moi, mon point de vue, c'est que je pense qu'il y croit. C'est d'abord la première chose. C'est-à-dire qu'il y a une croyance que la spécificité française, que le fait que la France ait refusé, en réalité, le néolibéralisme dans les années 80, fait que cette conversion au néolibéralisme forcé, elle est devenue, de toute façon, obligatoire, et qu'on ne peut pas ne pas y passer. Donc, il y a cette conviction-là. Conviction qui s'attache, il ne faut pas évidemment être naïf non plus, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement quelque chose d'intellectuel, qui s'attache, qui prend corps dans quelque chose qui est de l'ordre, et j'en parle à la fin du livre, de la revanche, en fait, du capitalisme français vis-à-vis d'un monde du travail qui ne s'est, en quelque sorte, jamais laissé faire, qui résistait à la différence du monde du travail britannique ou du monde du travail américain ou du monde du travail allemand, par exemple, qui a accepté de collaborer avec le capital et d'intégrer cette logique du capital. Le monde du travail français, lui, ne l'a jamais fait. Et donc, aujourd'hui, il y a, du point de vue du capitalisme français, en tout cas des grands capitalistes français, l'idée eh bien, qu'il faut aujourd'hui prendre sa revanche et casser, briser cette résistance. Et si vous écoutez ce que dit Bernard Arnault, on est totalement dans cette logique-là. C'est une interview célèbre de Bernard Arnault par Léa Salamé où il dit, voilà, je suis victime de ce sentiment socialo-marxiste qui domine en France. Et pour lui, si on traduit en français, ça veut dire en fait que, eh bien, on ne laisse pas la liberté totale au monde du capital. Il faut composer avec le monde du travail, et ça, c'est inadmissible. Et je pense que ces deux éléments, la conviction d'une part d'avoir raison presque contre les faits, et d'autre part cette revanche du capital, fait que effectivement, eh bien, on est sur une politique qui est une politique de classe. Très clairement, et toutes les mesures qui sont prises vont véritablement dans ce sens-là, et les derniers chiffres des inégalités qui ont été publiés cette semaine le prouvent très clairement. On est dans une politique de classe, et on est dans une politique, effectivement, qui s'enferme dans des vieilles lunes qui, aujourd'hui, sont remises en cause, moins par les gouvernements, mais en tout cas très largement, à la fois par les faits et par la science économique.
Romaric Godin, merci donc pour cet entretien. Et on recommande donc à nos auditeurs de lire votre livre. Voilà, merci. Au revoir.
Merci.
Grève illimitée, les portes se ferment, les piquets se forment. Grève illimitée, les bras fatigués, délaissent la chaîne, les tours sont muets. Grève illimitée, grève illimitée. Quand elle monte des usines, la colère, quand elle monte des usines, la colère, à la voix des machines. Ce n'est qu'un début, tout s'immobilise, on parle de crise, ce n'est qu'un début, on marche beaucoup, Paris sans essence, dialogue partout, ce n'est qu'un début, ce n'est qu'un début. Quand elle marche dans la rue, la colère, la colère. Quand elle marche dans la rue, la colère, la queue ses poings nus. La révolution, le mot est lâché en plein mois de mai. La révolution, entre les pavés, des fleurs vont pousser pour tous ceux qui font la révolution, la révolution. Quand elle unit des camarades, la colère, la colère. Quand elle unit des camarades, la colère monte en barricade. La Sorbonne libre, sans ciel, l'Odéon, partout l'amitié. La Sorbonne libre, ils nous ont chassés, à coups de matraque, ils nous ont volés. La Sorbonne libre, la Sorbonne libre. Quand on bâillonne la colère, la colère, la colère. Quand on bâillonne la colère, elle fait le tour de la terre. Ce n'est qu'un début, on est toujours là, tenons le combat. Ce n'est qu'un début, nous avons le temps d'aller en prison. Nous avons 20 ans, ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début, continuons le combat. Ce n'est qu'un début.
Donc c'était Grève illimitée de Dominique Grange. Donc on va passer aux actualités d'attaque, René.
Oui, alors déjà au plan national, contre l'impunité des multinationales, des centaines de citoyens mettent hors service Amazon, BNP Paribas et Total. Samedi 12 et dimanche 13 octobre, des dizaines d'actions se sont déroulées en France à l'occasion de la Semaine internationale de lutte contre l'impunité des multinationales, encore intitulé « Multinationales hors service ». Alors, pour rappel, Attac France et 150 organisations européennes ont lancé en janvier 2019 la campagne « Des droits pour les peuples, des règles pour les multinationales ». Et pourquoi maintenant ? Eh bien, cette semaine du 12 au 19 octobre accueillait à Genève la cinquième session de négociation du traité de l'ONU sur les multinationales et les droits humains et environnementaux. Et d'autre part, à Vienne, l'Union européenne et les États membres se réunissaient pour négocier la création d'une cour multilatérale d'investissement réservée aux grands groupes pour attaquer les États. L'objectif, donc, de cette semaine était de faire pression pour obtenir de réelles avancées concernant le traité de l'ONU et d'amener l'Union européenne et les États membres à renoncer à l'instauration d'une cour multilatérale d'investissement. À la suite de cette action, le samedi 12 octobre, à La Défense, 6 militants d'Attac ont été mis en garde à vue, dont Maxime Combe, porte-parole de l'association. Un rassemblement de soutien s'est tenu devant le commissariat. Les militants ont été libérés vers peu après 17h, mais seront de nouveau convoqués prochainement. Une prochaine action, toujours dans le cadre de cette campagne, ce sera vendredi noir. Elle est déjà programmée pour novembre et ciblera plus particulièrement Amazon. Soutien d'Attac France à la lettre à Emmanuel Macron pour un plan d'urgence pour sauver l'hôpital public, publié par les représentants des usagers de l'assistance publique et des hôpitaux de Paris. Une pétition accompagnant cette lettre a été lancée par les collectifs Interhôpitaux et Interurgences. Vous pouvez la trouver sur le site d'Attac France. Lubrizol, plus jamais ça. Dans une tribune publiée sur France Info, jeudi 17 octobre, 11 organisations, dont Attac, les Amis de la Terre, des associations environnementales, des syndicats et des collectifs de chercheurs et de scientifiques dénoncent les responsabilités de Lubrizol et de l'État dans leur gestion de la crise suite à l'incendie de l'usine. En outre, ces organisations appellent à un sursaut dans la politique de gestion des risques industriels avec une série précise de mesures à mettre en place. Et au plan local, alors multinationales hors service ou contre l'impunité des multinationales, eh bien, nous avons relayé localement ces actions du 12 et 13 octobre. Donc le samedi 12 octobre, nous étions environ 50 à 60 participants, participantes, membres des trois comités locaux Attac de la métropole, mais aussi d'ANV COP21, des Amis de la Terre et d'Alternatiba, ainsi que des militants de Greenpeace et des Gilets jaunes. Notre action a débuté dès 9h dans une station-service Total à la périphérie de Lille. La suite s'est déroulée dans le centre-ville par une déambulation accompagnée d'une fanfare, avec bien sûr large diffusion de slogans et d'informations à destination du public, tracts, brochures, etc. Des arrêts étaient prévus devant 4 cibles, le locker Amazon de la gare Lille-Flandre, l'Apple Store rue Faidherbe, la BNP Paribas Grand Place et la Société Générale rue Nationale. Devant les cibles choisies, dont nous avons relooké à notre manière les vitrines, ou le locker pour Amazon, des prises de parole ont été effectuées expliquant l'objectif de notre action. Un débriefing s'est tenu ensuite à l'AMRES pour faire un bilan. Une conférence débat, l'impunité sociale, fiscale et environnementale des grandes entreprises françaises avec Dominique Plion, économiste et ancien porte-parole d'Attac France. C'était dans le cadre de notre participation à l'exposition « Bienvenue chez les riches » organisée par l'AMRES du 8 au 19 octobre. La conférence débat, qui s'est tenue le lundi 14 octobre à l'École supérieure de journalisme, a rassemblé une bonne cinquantaine de personnes et a suscité un débat vivant où les participantes et participants ont révélé leur intérêt pour ce thème. Et enfin, « Le rouge et le vert », c'est une pièce de théâtre écrite par Jean Gadré, économiste et ancien président d'Attac Villeneuve-d'Ascq, mais bien sûr vous le connaissez certainement. Elle est mise en scène par Philippe Piau et est jouée par Spectabilis, une compagnie théâtrale des Pays de Loire. La représentation met en scène deux personnages, un syndicaliste et un écologiste. Elle sera suivie d'un débat avec Jean Gadré et Christopher Lienard, président de l'AMRES et administrateur des Amis de la Terre Nord. Ce sera le mardi 12 novembre à 19h à l'AMRES, 23 rue Gosselet à Lille. Et pour info, cette soirée est proposée par Attaque Métropole à l'occasion des 50 ans de Radio Campus.
Merci René. Donc j'ai envie de vous partager un témoignage que j'ai lu sur le mur de Facebook de la victime et qui semble selon toute vraisemblance crédible. Donc, cela se passe à Marseille le jeudi 10 octobre 2019. Donc entre guillemets, nous marchions dans la rue en début de soirée et déjà nous passions devant des vingtaines de camions de CRS. Pourquoi sont-ils si nombreux? Sommes-nous en guerre pour l'interrogation? J'ai un pack de bière dans les mains et je me prends une réflexion infantilisante par ces messieurs. Peu importe. Seulement plus tard dans la soirée, je découvre que ce soir-là a lieu une manifestation de personnes en non-mixité choisie, sans mec cisgenre. Elles souhaitent exprimer un ras-le-bol des agressions physiques et verbales qu'elles subissent en raison de leur genre et de leur orientation sexuelle par les vigiles et les forces de l'ordre surveillant la plaine. Donc la plaine, c'est un quartier de Marseille où il y a des travaux qui ne semblent pas faire l'humanité. Donc je suis chez un ami et j'assiste à la manifestation de la terrasse, hein, toujours le témoignage de la personne. Il n'y a pas beaucoup de manifestants et manifestantes, peut-être une ou un pour trois CRS. Les slogans sont « Bon enfant, il y a de la musique ». Puis nous partons pour rentrer chez nous avec Chloé et en descendant, c'est l'agitation. Nous voyons les manifestants et manifestantes partir en titubant. Nous nous approchons, elles ont les yeux rouges. Nous ressentons nous-mêmes les effets du gaz lacrymogène. C'est là que l'impensable a commencé. Les CRS commencent leur flot d'injures misogynes et lesbophobes. Va te laver, crasseuse. Tu ressembles à un homme, t'es dégueulasse. Dégage de là, rentre chez toi prendre une douche ou encore allez-vous lécher la chatte. Et j'en passe. Les manifestants et manifestantes répondent, tentent de se défendre face à ce flot d'injures. Chloé, son amie donc, pose une question à un CRS, celui-ci lui répond « Parle pas avec moi, t'es pas un homme ». Et puis là, c'est l'agitation, je vois les CRS courir après les manifestants et manifestantes, nous les suivons, je ne comprends plus rien. Je vois des personnes à terre, en plein milieu de la route, rouées de coups par la police. Les coups sont portés avec violence inouïe, au corps comme au visage, les insultes continuent à fuser. Tout le monde crie, j'ai peur que quelqu'un meure, j'essaye de filmer, mais je suis tétanisé. Chloé pleure. Nous nous retrouvons, je la serre dans mes bras, je ne vois plus rien, tout est flou, les bourdonnements s'installent dans mes oreilles. Était-ce réel? C'est une chose de lire les articles sur la violence policière et de voir des vidéos sur Facebook. C'en est une autre, d'un être témoin à un mètre de soi. Ces personnes sont venues lutter contre la violence, la lesbophobie, la misogynie et la transphobie qu'elles subissent. Elles ont reçu la même chose de la part des représentants de l'État. J'ai eu si peur parce que, au-delà de la violence, j'ai vu leur regard. Ces hommes avaient de la haine dans leurs yeux. Ces hommes détestaient ces manifestants et manifestantes pour ne pas être ce qu'ils attendent des femmes. Ces hommes n'acceptaient pas le fait que ces personnes soient lesbiennes, gays ou trans. Le regard de ces hommes m'ont dit qu'ils détestaient la différence. Je le dis aujourd'hui, les CRS sont des agresseurs. Comment pouvons-nous protéger des agresseurs face à d'autres agresseurs? Pour moi, il y aura un avant et un après cette nuit. Ce sentiment, je l'avais déjà, mais il se confirme encore plus aujourd'hui. Personne ne nous protège. Ce soir-là, donc, deux personnes ont fini en garde à vue. Leur procès aura lieu en mars. Deux personnes qui ont été agressées par des hommes CRS seront procès pour dégradation, rébellion, outrage à agent. Les agents ne seront sans doute jamais condamnés pour homophobie, misogynie et violence envers les personnes qui sont censées protéger. Fin du témoignage. Même en étant habitué personnellement à ces attitudes de la police, ce témoignage me glace le sang et me révolte. Et ce témoignage, je pense, est un très bon exemple de radicalisation qui perdure depuis longtemps au sein de la police. Oui, je parle de radicalisation, non pas islamiste, mais sexiste, homophobe, raciste. J'ajoute raciste car on ne compte pas le nombre de témoignages de personnes se faisant traiter de tous les noms par les agents de police comme le courant Salbounul. Pour une fois, je vais être d'accord avec Emmanuel Macron quand le mardi 8 octobre dernier, il a appelé à bâtir une société de vigilance afin de savoir repérer les petits gestes qui signalent un éloignement avec les lois et la valeur de la République, pour citer. Le président de la République a prononcé ce discours lors de l'hommage aux quatre fonctionnaires tués lors de l'attaque de la préfecture de police de Paris. Je remercie également Christophe Castaner, entendu le même jour par la commission des lois de l'Assemblée nationale, à afficher sa volonté de signaler systématiquement tous les individus présentant des signaux de radicalisation. Parmi les indices de radicalisation formulés par le ministre, il y a le refus de serrer la main de faire la bise ou de faire équipe avec une femme. Ah bah tiens, ça me rappelle tout juste ce que je viens de reporter. Le CRS du témoignage déclare « Parle pas avec moi, t'es pas un homme ». Donc il ne veut pas parler avec une femme, c'est un signe de radicalisation ça. J'attends donc que tous les citoyens et surtout tous les agents de police à faire des signalements des agents homophobes, misogynes, sexistes, racistes, afin, comme le dit Emmanuel Macron, de savoir repérer les petits gestes qui signalent un éloignement d'avec les lois et les valeurs de la République. Merci. Donc je vais peut-être faire deux petits rendez-vous d'agenda militant. Donc dans le cadre du festival Antipub du cerveau disponible, Alain Guyard, philosophe forain à Lille. Spectacle vivant de philosophie intitulé « Pourquoi il vaut mieux se mettre les burnes en route plutôt que se choper un burn-out ?» Donc c'est à la Bourse du Travail à Lille à partir de 19h30. Réservation obligatoire. Toutes les informations sur cet événement et ceux du festival du jeudi 30 octobre au dimanche 3 novembre sur www.cerveau-disponible.fr. Également, la société Louise Michel de Lille, en collaboration avec l'association En attendant le grand soir, invite à une rencontre débat avec Daniel Tanureau autour de son ouvrage L'impossible capitalisme vert. D'un côté, 3 milliards de gens vivent dans des conditions indignes de l'humanité. De l'autre, 200 ans de productivisme ont mené le système climatique au bord de l'infarctus et imposent de réduire radicalement les émissions de gaz à effet de serre, donc la production matérielle. C'est le casse-tête du siècle. Daniel Tanureau, ingénieur agronome et environnementaliste, propose de réconcilier l'écologie avec le projet socialiste parce que le capitalisme ne saura rien résoudre. Ça sera donc au Théâtre de la Verrière le jeudi 14 novembre à 19h. Donc je vais m'arrêter là. René, rien à ajouter.
Juste pour la pièce de théâtre, donc Le Rouge et le Vert, si vous souhaitez y assister, il faut réserver à l'AMRES.
D'accord, très bien. Bon, ben, on vous retrouve dans un mois, donc. Et on vous laisse avec Chemin de Traverse. Bon après-midi, bon week-end.